Je crois que tout le monde ici, personne ne commence une année, personne ne commence. J'encourageais les gens dans le culte anglophone, c'est que tu ne peux pas commencer une nouvelle année déprimé parce que c'est une nouvelle année. C'est nouveau. En fait, comme nous sommes là, on a. Maintenant, on a combien? 300, combien de jours nous restent? 330, quelque chose. Qui peut calculer rapidement, calcul mental? Bon, là-bas c'est 42, ici c'est 24, ici c'est 30, je ne sais pas. Vous avez des jours. Bon, la moyenne entre 324 et 35, en tout ça fait. Bon, il paraît qu'on a 342 jours. Ça veut dire que tu as 342 jours qui t'appartiennent. Tu peux en faire ce que tu veux, mais tu es obligé de les dépenser. Tu es obligé. Là, comme tu es là, tu es obligé de dépenser les prochains 12 mois, 11 mois que tu as. Alors, le résultat que tu auras dépendra de où est-ce que tu vas investir tes prochains 12 mois, 11 mois, c'est ça, hein? Donc, le résultat que tu auras dépend de l'investissement que tu vas faire. Où est-ce que tu vas dépenser les 11 mois? Qu'est-ce que tu vas en faire? OK? Ça, c'est très important parce que tu n'as pas de choix que de les dépenser. Mais avec quoi? Tu verras le résultat en décembre. Donc, si tu prends les 12 mois, tu vas acheter avec, je ne sais pas quoi, tu auras ce que tu auras là en décembre. OK? Mais en même temps, quand on commence l'année, vous allez voir que tout le monde est excité au début de l'année. Pourquoi? Tout le monde pense que quelque chose de bien prendra place et devra prendre place. Tout le monde est content à la fin de l'année. Pourquoi? Tout le monde célèbre parce qu'on se dit une nouvelle année, sûrement que de nouvelles choses commencent. Et d'ailleurs, moi, je crois que Dieu donne des fragments comme ça d'années pour nous donner, en fait, une philosophie de comprendre qu'il y a toujours moyen de recommencer, de mieux faire. Si tu as commis quelques erreurs l'année passée, tu peux aller et mieux faire. Ça va? Alors, je voudrais vraiment encourager l'Assemblée à bien se positionner. Et même quand on regarde l'année, on se dit, quand tu revois les choses, parce que c'est bien de faire une évaluation, quand tu revois des choses, tu vois que tu n'as pas progressé comme tu voulais. Regarde un peu les genres d'obstacles qui te retiennent. Est-ce qu'on parlait d'obstacles? OK. Et vous allez voir, vous allez voir que Dieu parle des obstacles et les appelle portes. Comme j'ai dit la fois passée, les portes de l'enfer, et ici, parle des portes des reins. Bon, j'ai déjà tout expliqué dans ce sens-là. Et on a dit ceci, que le diable, en fait, sa stratégie, c'est de mettre des semences dans nos vies qui vont nous empêcher de progresser. Ça, on a dit ça la fois passée. Et bien aimé, je voulais qu'on comprenne une chose, qu'une sémence, chaque fois que tu vois le mot sémence, ça veut dire principe ou parole. Chaque fois, je répète, chaque fois que tu vois le mot sémence dans la Bible, ça veut dire principe ou parole. Donc, autrement dit, le diable trouve un moyen de saboter la volonté de Dieu pour toi, les promesses de Dieu pour toi, la destinée de Dieu pour toi. Parce que j'ai dit ceci, que la sémence, quand Dieu dit, quand la Bible dit que Dieu a semé une bonne sémence en toi, c'est qu'il a semé, il a une volonté bonne pour toi, il a des promesses bonnes pour toi, il a des paroles bonnes pour toi, et c'est ce qu'on appelle sémence. La Bible dit que le diable, l'ennemi, vient aussi mettre une autre sémence. Ça veut dire que le diable, la stratégie, c'est qu'il vient planter en toi une autre sémence qui va saboter, en fait, le plan de Dieu pour toi. Est-ce que vous comprenez? OK? Donc, quelque part, il peut bien avoir peut-être une sémence du diable qui est en train de saboter ce que Dieu a déjà dit en avance pour toi. On est ensemble jusque-là. OK? La Bible dit ceci. Si vous connaissez bien, si vous connaissez bien la parabole du semeur, vous connaissez cette parabole-là, du semeur. La Bible dit ceci, qu'un semeur, vous savez, chaque fois que Dieu parle d'une parabole, il est en train d'ouvrir un mystère qui nous ouvre les yeux. Alors, nous lisons la Bible vite et étudions la Bible bien. Quand Dieu parle de la parabole, il est en train de parler, en fait, d'un principe, un mécanisme spirituel qui prend place autour de nos vies. Dieu dit ceci, que quand lui sort, il vient mettre des semences dans nos vies. Mais aussi, il dit aussi que ces semences, de fois, tombent dans des terrains... dans des mauvais terrains, en fait. Et malheureusement, les bonnes semences ne savent pas produire. Suivez ce qu'il dit. Par exemple, dans Matthieu 13, 18. Il ne faut pas lire, écrivez, et moi je continue. Comme ça, on va vite. Dans Matthieu 13, 18, il dit ceci. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Est-ce qu'on peut dire du semeur? Lève un peu ta main droite et dis, Seigneur, merci parce que tu es le semeur dans ma vie. Tu sèmes les bonnes semences qui portent des bons fruits. Dans la volonté de Dieu, c'est de semer dans ta vie des choses qui vont amener le déblocage, de semer dans ta vie des choses qui vont amener le progrès, de semer dans ta vie des choses qui vont amener la paix. Dieu veut mettre ces choses-là. Mais maintenant, le problème, c'est que, la Bible dit ceci, lorsque celui qui a écouté la parole, qui a reçu la sémence, est-ce qu'on peut dire « j'ai reçu la sémence » Il dit, celui qui a reçu la parole ou la sémence ne comprend pas. Là, il me dit, le malin vient et enlève ce qui a été sémé. Vous comprenez? Donc, le plan du diable, c'est d'enlever la bonne sémence ou le bon principe ou la bonne promesse. Le diable essaie d'enlever ça de toi. Enlever ça parce qu'il sait, voilà. Le diable sait que toute sémence portera son fruit. C'est une question de temps. Mais aussi longtemps que la sémence est là, elle portera un bon fruit. Donc la stratégie du diable, c'est d'enlever la bonne sémence. On est ensemble jusque-là. Et puis, donc vous voyez, le diable se bat, en fait, pour étouffer. Et d'ailleurs même, il utilise un autre passage pour bien expliquer ça, toujours dans Matthieu 13. Il continue plus bas, au 22. Il dit, c'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du siècle, la séduction, les richesses, étouffent cette bonne parole et la rendent infructueuse. Est-ce qu'on peut dire infructueuse? Bien-aimés, vous allez remarquer qu'il y a des gens avec cette même Bible, ils font des milliers de dollars. Et vous allez se voir d'autres personnes avec la même Bible, ils sont plus confus que jamais. C'est que le problème est celui-ci. Le problème se trouve au niveau du territoire sur lequel la sémence a été plantée. Vous voyez, ça me dit ceci, que quand la sémence est tombée, elle est tombée parmi les épines. Maintenant, on explique c'est quoi les épines. Il commence à dire la convoitise. On explique des choses qui peuvent étouffer la sémence. En fait, il y a des choses qui sont déjà en nous, qui étouffent ce que Dieu a déjà mis en avance. Donc, si tu veux avoir une vie de victoire, c'est que tu dois évaluer ta vie pour voir quelles sont ces choses qui sont déjà là dans ma vie et qui étouffent la volonté de Dieu. Parce que bien aimé, les choix que tu fais dépendent des choses qui sont déjà en toi. Est-ce que vous me suivez? Alors, le diable a la stratégie, c'est de mettre des choses dans ta vie d'office qui vont faire que même quand la parole vient, elle trouve résistance. Est-ce que vous me comprenez? Il veut que quand la parole de Dieu vient, elle trouve une résistance en toi. Que tu résistes à la parole de Dieu. Parce qu'il sait que si la parole de Dieu trouve un bon terrain en toi, tu vas produire. Parce qu'il me dit que la parole va rester infructueuse. Donc, en fait, suivez-moi. Le plan de Dieu, le souci de Dieu, c'est de mettre des choses en toi qui vont produire. Est-ce que vous me suivez? Autrement dit, vous allez voir comment la Bible dit ceci, que même quand on ira se présenter devant le trône de Dieu pour le jugement, Dieu parlera des choses que tu as faites en fait, que tu as accomplies. Pas des choses que tu as achetées, mais des choses que tu as accomplies. Il va parler de tes œuvres. Donc en fait, le souci de Dieu, c'est qu'on puisse produire avec les paroles qui entrent en nous. Dieu est content. Quand tu établis une grande compagnie et les gens en trouvent du travail, Dieu se dit, voilà, c'est tout ce que je veux. Voilà, la parole est fructueuse. Est-ce que ça va jusque-là? Dieu est content quand ta vie est stable. Il se dit, la parole est fructueuse. Dieu est content quand tu fais des progrès. Il se dit, la parole est en train de produire. Dieu est aussi content quand il dit non au diable. Il se dit, la parole lui donne la force de dire non au diable. Parce que vous allez voir que Jésus-Christ, dans le désert, le diable est venu essayer d'arracher, en fait, la bonne sémence. Et tout ce qu'il a fait, c'est de lui régurgiter la parole. Et le diable a eu des problèmes. Donc, en fait, Dieu est content quand tu marches dans la victoire. L'échec ne réjouit pas Dieu. Donc, maintenant, le plan de Dieu, maintenant, c'est de mettre dans nos vies des sémences, en fait, des sémences de promotion, des sémences de paix. Parce qu'en fait, tout ce que tu produis dans ta vie, bien-aimé, je te garantis, ça vient de quelque part. Tu ne peux pas dire que, oh, soudainement, j'ai la paix, j'ai la médiocrité, la misère dans ma vie, ça m'arrive, je ne sais pas d'où ça vient. Non! Si tu suis bien, ça vient, écoute, file bien cette chose-là. Tu vas atterrir sur une racine. On est ensemble jusque-là. Alors, c'est très important, très, très important de... examiner. C'est pour ça que la stratégie de Dieu maintenant, quelle est la stratégie de Dieu? C'est, par exemple, dans Thessaloniciens, il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Est-ce qu'on peut dire veillons? Et puis il dit, soyons sobres. J'essayais de vous demander la fois, parce que c'est quoi la définition de la sobriété? La sobriété. Dis à quelqu'un, reste sobre. Mais c'est quoi? En fait, Dieu veut que... En fait, vous allez voir là, Dieu en fait dit des choses tellement simples. Parce que vous savez quoi? Aïe, aïe, aïe. Nous, on pense qu'avec Dieu, on doit agir comme avec un marabout ou un sorcier qu'on va voir. Hein? Tu ne fais rien. Lui, il vient seulement, il fait des... On te jette de l'eau, on te gifle deux fois, on te dit saute comme ça. Ah, dit voilà, la solution est arrivée. Non! Non! Dieu ne veut pas te donner des solutions, des solutions temporaires, comme un band-aid, comme un sparadrap, comment on dit? Oui, un pansement rapide là. Non! Dieu veut déloger en fait la chose même. Lève la main, toi, dis Seigneur, déloge ces choses-là. Oui! Dieu veut déloger les choses pour que tu marches dans une entière liberté. Une entière liberté. Et là, écoutez, la liberté, il faut comprendre. La liberté est différente de la délivrance. On insiste beaucoup sur la délivrance. Bien aimé, après les études que j'ai faites, je me suis rendu compte d'une chose. Les démons n'ont pas de problème. Le problème, c'est les choses que tu gardes là qui les amènent. Je vais vous montrer un principe de délivrance. J'espère que ça va nous faire quelque chose ici. Alors, il y a, il dit ne dormons pas, mais veillons. Veillons, ça veut dire quoi? Veiller veut dire, fais un examen, examine. C'est ça, veiller. Examine. Ouvre les yeux. Examine ta vie, pas la vie de ton voisin. Vous savez quoi, ce qui est bizarre avec nous, c'est que tu peux faire une dissertation sur les manquements, les failles et les échecs de la vie de quelqu'un d'autre. Mais si on te pose la question de faire le même examen sur ta vie, tu auras des problèmes. Parle-moi un peu de toi, de tes erreurs, de tes... Tu vas dire, non, j'en ai qu'un et demi. Hein. Mais si tu dis, parle-moi de tel, oh, assis-toi. Tu vas dire, assis-toi, parce que quand je commence, tu risques de te fatiguer. Je vais te donner au moins 2 jours de séminaire sur lui. Pourquoi? On n'est pas équipé, en fait, de faire face à nous-mêmes. On est équipé à regarder les vies des autres. Mais la vie qui est démolie, c'est ta vie ou la vie de l'autre? Écoute, c'est ta vie à toi qui a des problèmes. Écoutez, si tu commences à faire cet examen-là, il te sera facile, il sera facile pour Dieu de te révéler en fait les choses qui te ralentissent. Qu'est-ce qui te ralentit? Alors Dieu dit ceci, fais un examen. Dans quel domaine? Il dit, examine par exemple tes finances. Pourquoi il y a des manquements? Examine par exemple ton foyer. Pourquoi il y a ces problèmes? Examine tes enfants. Pourquoi ils agissent comme ça? Examine un peu ta vie. Pourquoi il y a tout ça? C'est important d'examiner. C'est pour ça qu'il dit, ne dormons pas, ne fermons pas les yeux sur les choses bizarres. Ouvrons les yeux ou veillons. Et puis il dit, soyons sobres, amenons un bon jugement sur ces choses-là. Soyons lucides. Et puis il dit, vous connaissez la Bible, il dit, veillez et priez. J'ai posé la question, pourquoi Dieu dit veillez et priez? Parce que Dieu veut qu'on prie avec précision. Quelqu'un qui prie avec les yeux ouverts, il prie avec discernement, il sait de quoi, il sait ce qu'il recherche. Mais quelqu'un qui ne veille pas, il a les yeux fermés, il ne sait même pas pourquoi il prie. C'est pour ça que les prières de beaucoup sont ennuyeuses. Parce que ils prient sans discernement. Ils ne savent même pas ce qu'ils demandent. Donc, ils prient. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Aucun plan, aucune vision. Il n'y a rien. Mais donne-moi l'argent. Mais attends, tu cherches pourquoi? Vous pensez que Dieu est un gaspilleur? Non! Ouvre les yeux, en fait. Peut-être que l'argent n'est même pas loin. Mais il te faut quelques 2-3 stratégies pour que ça explose. Et ça va jusque-là. Alors, Dieu dit, veillons et prions. Parlons des soucis et de ces choses. J'aurais besoin de frère, pourquoi si tu veux me faire ça? Câble courant pour brancher mon laptop. J'ai besoin d'un câble long, le rallonger à l'intérieur là-bas. Donc, la Bible dit ceci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Est-ce qu'on peut dire soucis? Car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, parce que votre adversaire rôde comme un lion rugissant. Le diable veut se trouver un moyen d'étouffer la parole de Dieu. Et c'est 1 Pierre 5, 7. Le diable fait tout pour trouver un moyen d'étouffer les choses de Dieu dans ta vie. Et Dieu t'exhorte, dit, sois sobre. En fait, les soucis, bien-aimés, je vais vous dire une chose. Chaque fois que tu te sens en souci, fais tout pour que ça parte. Parce que les soucis annulent tes facultés de réflexion. Tu peux t'abrutir dans des bêtises. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu te dis, comment même j'ai été bête pour rester 2 semaines ennuyé par cette histoire. Donc, chaque fois que tu sens comme un souci, bats-toi jusqu'à ce que ça doit partir. Les soucis enlèvent toute faculté, toute bonne réflexion. Dieu refuse les soucis parce qu'il veut en fait que tu sois équipé à réfléchir aux choses. La Bible dit ceci, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui sait examiner les choses. C'est lui qui sait tirer des bonnes conclusions. C'est lui qui sait étudier sa vie. Trouvera des bonnes conclusions et trouvera le bonheur. Est-ce que ça va? Ok. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? On doit veiller, ça veut dire inspecter, questionner, ouvrir les yeux. Encourage quelqu'un, tu lui dis, ouvre les yeux grands. Ah, ça fait du bien. Tu peux voir des choses que les autres ne voient. Bien aimé, tu peux voir des choses. Ouvre bien les yeux. Vous savez, des fois, quand tu peux être dans une histoire, on est en train de t'escroquer, tu ne te rends pas compte parce que les gars te préparent là, ils te manipulent, ils te préparent. Un peu de sel, tout ça, ils te font des compliments, tout ça là, tu te sens bien. Et puis, ils t'escroquent. Après, tu dis, ah, quand il m'avait dit, maintenant je vois. Mais il est déjà parti. Quand il te parlait, tu étais embrouillé par ce qu'il disait. Aucun discernement. C'est après que tu dis, maintenant je vois qu'il est en train de m'escroquer. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que Dieu dit que les yeux restent ouverts, ne soient pas embrouillés. Vous savez quoi? Quand quelqu'un t'appelle, il te dit, il y avait une secrétaire qui travaillait dans un bureau. Et il y avait un monsieur qui voulait en fait avoir rendez-vous avec le patron. Et pour passer chez le patron, on passait par la réceptionniste qui faisait son horaire. Alors, la réceptionniste à la porte, voyez les réceptionnistes qui sont à la porte des grands patrons, se sentent aussi, patrons. Parce que maintenant, elle peut décider qui va entrer, les gens le supplient et tout ça. Alors, elle est à la porte en train de décider qui doit entrer. Maintenant, le monsieur vient. Il regarde un peu les mouvements et se dit, ah là, ça serait difficile d'entrer. Il entre et dit, oh, vous êtes bien habillé aujourd'hui. Ah bon? Là, on te beurre déjà. Vous avez une belle écriture. Ah oui, j'étais à l'école. Vous êtes à quelle école? Ah mais non, j'étais à la belle écriture. Tu commences à expliquer, tu dis, ah en tout cas, est-ce que c'est difficile de voir ton patron? Non, c'est facile. Vous voulez un rendez-vous? On t'a déjà préparé. Mais c'était fait intentionnellement. Et je vous dis une chose. Alors Dieu dit, veille, c'est-à-dire étudie les choses. Avant, étudie. Même si quelqu'un vient gentiment te parle bien, étudie d'abord, discerne ce qui se passe. Ne saute pas sur toutes les occasions. Discerne où est-ce que cette histoire m'amène. Ouvre les yeux. Étudie. Questionne. La Bible dit, veillez. C'est-à-dire étudier, questionner. Prends garde. Sois sentinelle. Qu'est-ce qu'une sentinelle fait? Une sentinelle se met là pour étudier les choses qui doivent entrer et celles qui ne doivent pas entrer. Donc, je ne peux pas tolérer des choses bizarres dans ma vie. Tu es sentinelle. Ça dit un peu un bon amen. Est-ce qu'on peut continuer? Eh bien, dans Proverbe 4, 23, il dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. » Le problème est que quand ton cœur est déjà infecté, le diable va faire la fête dans ta vie. Je vais vous dire une chose. Chaque situation qui vient dans ta vie, le diable l'utilise pour amener une philosophie démoniaque qu'il peut utiliser contre toi. Vous voyez par exemple, une enfance mal aimée fait de toi quelqu'un qui est timide peut-être. Tout ça c'est une mauvaise philosophie. La timidité vient d'où? La Bible dit ceci, que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité mais de puissance. Bon, alors toi, tu es un peu timide, là, dès qu'on te met devant les gens, tu trembles. Des fois, pose-toi la question. Ça vient, en fait, la question, c'est que quelle est l'origine de ce genre de behavior? Ça vient d'où? Il y a quelque chose qui te pousse à être comme ça. Il y a une philosophie qui t'a emprisonné, qui fait que quand tu es devant les gens, tu penses quelque chose. Tu penses quelque chose qui t'intimide. Et il y a d'autres personnes qui sont libérées de ça. Quand ils sont devant les gens, ils n'ont aucune intimidation. Mais c'est une philosophie, en fait, qui t'emprisonne. Elles viennent de quelque part. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alors, donc, les échecs et tout ça, ce sont des semences que le diable essaie de mettre en nous pour nous emprisonner dans des limitations inutiles. Tu dis, bon, tu vois, tu as été mal aimé. Qu'est-ce que tu veux espérer de la vie? C'est comme quelqu'un qui me dit, ah, pasteur, les hommes, c'est des menteurs. Bien aimé, moi, je connais plein d'hommes qui ne sont pas menteurs. N'est-ce pas, révérend Vital? Non, mais attendez. Excusez-moi. D'où vient cette philosophie? Écoutez, le diable utilise les circonstances pour te façonner à une certaine réflexion. Si tu penses que tous les hommes sont menteurs, tu vas faire deux choses. Un, tu ne vas pas te marier. Ou si tu te maries, tu mettras ton mari dans des problèmes sérieux. J'ai mal parlé. Mais c'est une philosophie, en fait, qui est venue d'un événement. Et le diable utilise la philosophie pour t'emprisonner. Alors, si tu vas chez des charlatans, ils vont te bouffer l'argent pour te dire, tu as un masque. Ça, c'est encore une autre philosophie pour t'empêcher d'avancer. Ah, tu te maries pas, attends, on va prier. Dis, oh là là, je vois un esprit de masque. Il n'y a pas d'esprit de masque. Il y a une pensée que le diable a sémée en toi. On peut dire sémence. La sémence, justement, la bonne sémence est corrompue par une mauvaise sémence qui infecte maintenant le plan de Dieu pour toi. Tu deviens confuse. Tu ne sais plus où est-ce que tu es. La confusion vient quand? Quand il y a la sémence de Dieu qui vient et la sémence du diable qui vient, tu ne sais plus où mettre la tête. Dis un peu, je refuse. Toute mauvaise sémence qui enfante la médiocrité, qui enfante les malheurs au nom de Jésus. Si on t'a utilisé plusieurs fois dans ta vie, les gens t'ont escroqué, tu risques de croire que tu risques de te méfier de tout le monde, même des gens bien. Parce que tu as développé un système en toi pour te méfier des gens. Ok, donc, on a parlé de ça et on a parlé de comment le diable utilise ces circonstances pour nous distraire et ralentir le progrès, en fait, dans nos vies. Et on a parlé de, il utilise les moments de vulnérabilité. Par exemple, quand on est enfant, il met une mauvaise sémence qui, en fait, infecte la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose des origines. C'est important de comprendre que nos origines nous affectent. Bien aimé, vous allez vous rendre compte d'une chose, vous serez d'accord avec moi, qu'il y a des gens qui ne prient pas pour les choses que nous on prie, mais ils les ont. Vous allez voir. Parlons de la bonne santé. Il paraît que les Chinois vivent longtemps. Vivent longtemps et toujours fort. C'est que leur culture permet cela. Il y a une culture en eux. Bien aimé, on a trop fatigué les démons. Les démons n'ont aucun problème. Parce que vous les chassez là, un homme. Comme moi, j'ai chassé un esprit de découragement dans un treadmill. I'm telling you, on fait des choses bizarres et des fois, on nous prend comme des insensés. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas ça, qui ont ce que vous vous faites pour faire n'importe quoi. Je parle avec... Si, chasser les démons, amener les déblocages comme on le pense, alors, dans certains pays, non, on serait même 10 fois mieux que les États-Unis. Vous avez vu comment on fait les délivrances à certains pays? J'ai un ami, le prophète Bernard. Il dit, avant de toucher même le démoniaque, on commence d'abord à une prière intense pour arracher un arbre. Donc, ouais, il me dit, ah, je dis, prophète. Il dit, on blaguait pas. Donc, tu passes la journée, hey, là, tu sens que non, c'est la délivrance arrive aujourd'hui. Viens ici, oh non. Donc, on te fait des démonstrations bizarres. En même temps, le courant dans ce pays-là part à 18h parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Je dis, mais attendez, si vous chassez les démons comme ça, pourquoi vous ne progressez pas? Vous voyez comment on devient un peu borné. Mais non, c'est une question culturelle. La culture t'emprisonne, elle t'emprisonne. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, hein, Dieu travaille d'une manière, elle est tellement simple. C'est nous qui compliquons les choses. Je vais vous montrer quelque chose qui va nous scandaliser. Suivons un peu. Dieu a observé Israël. Vous savez ce qu'on appelle un peuple au coured. Dieu a observé Israël depuis qu'il a délivré Israël. Le grand problème ici, c'est que c'est souvent facile, une sortie facile, c'est de dire que j'ai un esprit de ceci. Hein? Comme ça, on chasse l'esprit et tu ne fais aucun travail. C'est ça. Quand vous voulez blâmer l'esprit de pauvreté, bien aimé, quand Dieu a béni certains pays, cobalt, tout ce qui est nouveau, on le trouve dans vos pays là. Et puis, soudainement, vous êtes pauvre. C'est quel esprit? Non, mais enfin, parlons bien. Quel est l'esprit qui bouffe votre cobalt, votre diamant et votre or pour vous donner un esprit de pauvreté? Le diable est un menteur. Non, je vous dis, ça ne peut pas être un esprit qui vous... Non, parce que quand Dieu nous a bénis, il nous a bénis. Le problème maintenant, bien aimé, parlons de la santé. En Chine, par exemple, ils vivent longtemps, ils vivent en bonne santé. OK? Eux, ils ne vont pas lier les esprits de mort parce que eux, ils vivent en bonne santé. Le problème est que ce n'est pas qu'ils ont passé le temps à chasser l'esprit de mort. Leur culture fait qu'ils mangent des choses saines. Leur culture fait qu'ils mangent des choses saines. Alors c'est normal qu'ils développent une bonne santé. Donc vous ne direz pas que Dieu ou bien là-bas les démons se sont excusés. Non, c'est la culture qui a créé ça. Et la culture maintenant façonne notre façon de voir les choses. Vous pouvez être devant deux personnes. Il y en a une qui regarde, voit l'opportunité, toi tu regardes, tu pleures. Parce que sa culture à lui permet. Bien aimé, des choses comme l'ordre, des choses comme le programmer les choses. Il y a des cultures qui, les gens sont programmés comme ça. Tu ne peux pas dire, Seigneur, chasser l'esprit de retard. On est en retard tout le temps parce que notre culture propagande ça. Je vous dis la vérité. Vous savez qu'on ne se sent pas très dérangé quand on est en retard. Il y a d'autres personnes, ils sont dérangés. Leur culture est que les choses sont à temps. Mais quand on est un peu en retard, tu vois que même quand ils te parlent, ils te disent, on avait rendez-vous quand même. Hein? Ils te rappellent. Mais nous, non pas non show, you still show up. Bien aimé, c'est une culture. Elle te met en retard, Il faut faire attention. La Bible dit veiller, ça veut dire quoi? Si tu ne poses pas des questions, cette chose va rester, mais elle te mettra en retard des grandes choses. Nos amis de la peau blanche préparent, je suis prends un séminaire là, de pastorat juste pour étudier, préparent les prédications de toute l'année, ont des programmes déjà faits. Ils savent que trois mois je parle de ça. Tout le programme est déjà fait, ok? J'essaie de commencer à étudier comme ça, de me préparer comme ça. Je vais vous dire comment ça rend les choses faciles. Vendredi soir, j'étais à Montréal, je prêchais. Je suis arrivé à 19h directement, j'étais sur l'estrade, j'ai prêché jusqu'à 22h. Samedi matin, j'ai prêché, j'étais à la conférence jusqu'à 22h, 23h. Je conduis toute la nuit. Je suis arrivé ici maintenant, je suis en train de parler, l'après-midi je vais parler. Bien aimé, si tu ne sais pas t'organiser et que tu ne sais pas te planifier en avance, c'est impossible de faire ce que j'ai fait ici. Parce que parler seulement pendant 30 minutes, tu as eu une semaine de préparation. Donc, quand tu te prépares en avance, bien aimé, les choses de vite, préparer vite. Vous commencez à courir dans tous les sens. Mais ça, c'est comme ça que nous on fait les choses. Donc, on s'est dit, je vais dans un studio d'enregistrement. Le monsieur, on lui demande, qu'est-ce que tu vas chanter? Est-ce que tu vas préparer ta partie? Il dit, non, moi, le Seigneur m'utilise de façon que quand je prends le micro, les paroles viennent seulement. Donc, vous jouez seulement, chante ta partie. Quand moi, je viendrai, ça va sortir. Je dis, c'est normal que Michael Jackson soit au top et que toi, tu sois en train de te débrouiller. Parce qu'il passe le temps. Tout est je regardais le concert de Michael Jackson, comment il est préparé, bien aimé, ça, c'est incroyable. Les musiciens sont là des heures en avance, des semaines en. Ils préparent le stage. Tu vois des menuisiers, des artistes préparer le stage. Tous les effets là, Ce n'est pas 5 minutes avant le concert, mon toit, les gens branchaient les câbles. Non! On n'est pas excellent, c'est un problème de culture. Tu vas chasser quel diable? Dis-moi quel diable tu vas chasser. Il y a une culture. Parlons un peu. La Bible dit ceci. Je veux qu'on voie ce passage. Bon, ok, mettez-le de côté. On va peut-être discuter un peu. Dans Ézéchiel 16, chapitre 1. Ézéchiel 16, écrivez-moi, je vais lire. Ézéchiel 16, chapitre 16, verset 1, dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Écoutez, avant d'y arriver, suivez-moi s'il vous plaît. Est-ce que maintenant, pardon, fermez vos Bibles. Je n'ai pas demandé qu'on lise. Si vous fermez, suivez-moi. On va aller vite. Quand je suis allé lire ce passage, je me suis posé une question. Dieu a eu des problèmes sérieux avec Israël. Sérieux. Quel problème? Depuis qu'il les a délivrés, malgré que Dieu voulait leur progrès, les gens amenaient des philosophies bizarres. Une des philosophies, c'est d'aller prendre faire un veau d'or et de dire, voici l'Éternel qui nous a délivrés d'Égypte. Bien, mais attends. Ça vient d'où? Dieu a tellement eu de problèmes avec Israël. Malgré qu'il voulait la promotion, les gens ne changeaient pas. Il a finalement tiré la conclusion de son examen, de sa thérapie. Non, je dirais de son examen. Donc, il a donné une diagnostic sur Israël. Parce qu'il a dit, en fin de compte, Israël est un peuple au cou raide. Ça veut dire des rebelles invétérés. Alors, maintenant, Dieu veut maintenant donner une étude pour aider Israël à comprendre pourquoi ils sont bizarres comme ça. Et voilà comment la conclusion de Dieu. Il dit, va dire à Israël, fils de l'homme, c'est le prophète, fais connaître à Israël ses abominations, ses bizarreries. Voilà comment il commence. Verset 3. Voilà l'étude et la délivrance de Dieu. Il dit, tu diras à Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de... Non, il ne faut pas suivre là-bas. Juste au bon moment, bon moment. Hein? Il dit ceci. Écoutez, Dieu dit, par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Dieu dit ceci. Pour bien te délivrer, commençons par l'origine. Parce que tu essaies de délivrer des choses aujourd'hui qui ont déjà commencé avec tes aïeux. Alors il dit, commençons par ton origine. L'origine. Maintenant, on explique c'est quoi l'origine. Il commence par le pays. Il dit de ton pays. Il dit de l'origine Israël, tu agis bizarrement parce que tu viens de tel pays. Si tu penses que ton pays ne t'affecte pas, tu es naïf. Excusez-moi, je suis obligé d'être terminé maintenant. Mais quand j'ai étudié ça, Dieu a pris Israël, il a mis Israël dans un désert de 40 ans. Pour lui apprendre des choses, changer sa philosophie. Parce que la philosophie, en fait, est imprégnée par le diable. La délivrance, c'est celle-ci. La délivrance, c'est quand ta philosophie est changée et le diable est incapable d'agir. Il agit avec quoi? Il agit avec les mauvaises semences qu'il a mises en toi. Quand quelqu'un te regarde, il te dit, tu vois, ce que je t'avais dit déjà, que tu as déjà accepté comme semence, c'est que les gens ne t'aiment pas. Regarde comment ils te regardent. Alors, tu reçois ça. Mais les gens qui sont délivrés de ça, ils savent que si Dieu m'aime, c'est suffisant de m'aimer moi-même. Ils n'ont pas de problème même quand on les regarde mal. Leur démarche, ils don't trip. Parce que tout le monde les... Non! Quand ils se mettent devant les gens, ils savent que je dois diriger les gens anyway. Je suis à la tête et pas à la queue. Il y a une philosophie qui les a possédés. C'est comme ça. Alors, pour bien te délivrer, il faut qu'on change cette philosophie-là. Si tu n'as pas ça, tu vas marcher possédé. Parce que le diable est à l'aise. Il se trouve une semence en toi qui le rend à l'aise. Et t'as dit, de toute manière, être en retard, ce n'est pas un problème. Tu acceptes ça, tu es en retard. Et ça te fait rater des bonnes choses. Ce que je vous dis, c'est tellement vrai. Je prie que quelqu'un le reçoive. Il n'y a pas des gens qui peuvent... Il y a des gens qui ont un horaire. Je vous dis une chose, je termine par là. Il y a quelqu'un qui a entendu parler de moi. Il est ici à Boston. Sur l'avenue où les gens s'habillent bien, là, c'est où? Newberry. Toi, tu vas là-bas. On va parler à la fin de ce culte. Sur Newberry Street, il y a un monsieur qui est là-bas, un Italien. Il est président d'une compagnie qui vend les produits innovés. C'est-à-dire que quand tu fais les recherches, tu découvres quelque chose. Tu es un chercheur, mais tu n'as pas l'argent. Lui, maintenant, c'est un investisseur. Il achète ton produit, te donne l'argent. Lui prend le produit, il va faire le marketing et en faire l'argent. Un millionnaire, jeune garçon. Il avait entendu parler de moi et il voulait que je puisse l'introduire quelque part. Donc, on me fait chercher, on m'appelle, je vais le voir. Je vais vous dire maintenant comment ces gens fonctionnent. Un, il n'a pas, le temps de parler des choses. Oui, hey, d'où tu viens? Tu es tout comment? Tu es comme moi? Non. On va pam, droit au but. Parce qu'il y a un autre rendez-vous. Les gens vivent. En fait, il a un plan de succès de toute l'année. Et il a les jours vraiment cités, les heures, tout est calculé. Il n'y a pas des heures seulement de juste au téléphone 4 heures. Et puis d'aller au mall juste pour perdre le temps même quand il n'y a pas d'argent. Non. Je dois aller quelque part. Donc quand j'arrive, on m'annonce, Monsieur Tell, le pasteur est arrivé. Hi, how are you? Have a seat. Ok. I hope you get the parking. Ok, yeah. One coffee? No. Bang! On passe au travail maintenant. Je suis en train de faire ceci. On parle tout ça là. Et puis il dit, et puis quelqu'un derrière lui suit avec laptop et tout le programme de la journée. Sir, your 10 o'clock appointment is coming up. It's already here, sitting down. It's 10:25 now. Ça dit wrap up. Wrap up, something's coming up. Bon. Si tu le vois monter, toi tu peux continuer à déraciner les arbres et chasser les démons de tes ancêtres. Tu vas le voir percer sans faire ce que tu fais là. Et suer comme tu le fais. On se rébelle contre la volonté de Dieu, pensant. Vous savez quoi? Je reviendrai sur. Tu es du pays. J'ai dit quoi? Tu es du pays de Canaan. Et puis là, il me dit. Ton père et ta mère, amoréens et haïtiens. Je parlerai des origines des parents. Et je parlerai des origines du pays. Ça va nous ouvrir les yeux. Vous allez comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont dans nos vies. Au lieu de blâmer les démons, tout ce qu'il a fait, c'est de te faire un séminaire. Tu as levé les mains, tu as accepté le séminaire. Maintenant, tu marches par les séminaires. Et c'est ce qu'on appelle les sémences générationnelles ou les liens de famille. Je vais vous expliquer ça. Parce qu'il y a des choses que nos aïeux ont fait. Ont ouvert le diable, ont ouvert des portes au diable. Mais ce sont des choses qui allaient en encontre à la parole de Dieu. C'est pour ça que le diable est à l'aise. Et je vais vous montrer ça. OK? À dimanche prochain.